Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes en direct sur Radio La Civière, en direct de Mémac, de la cour du Clos del Pais, et on est en direct de Mémac parce que aujourd'hui on fête les 20 ans du parc naturel régional 2000 vaches en Limousin, et voilà, on va être là un peu présent sur la journée pour vous faire vivre cet événement. On va avoir plein d'invités, on va parler astrologie, biodiversité et plein d'autres choses. Voilà, donc on va être là ce matin, là on va faire une émission à peu près jusqu'à midi, et on sera de retour cet après-midi pour un deuxième plateau à partir de 14h. Voilà, donc on est en compagnie de Justine à la technique. Bonjour Justine.
Salut Raphaël, bon anniversaire le PNR.
Bon anniversaire, et on a le plaisir de recevoir en premier invité Philippe Brugère. Bonjour Philippe Brugère.
Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à Mémac, bienvenue à Radio Vassivière.
Ah ben merci. Alors on en profite, oui, pour remercier l'équipe de Good Morning Ventadour qui nous prête son créneau du samedi matin. Alors pour les fans de Good Morning Ventadour, n'ayez pas peur, ils reviennent la semaine prochaine avec toute leur chronique, l'accordéon et tout ça. Voilà.
Donc on va vous les rendre.
On vous les rend après. Merci à eux. Et voilà. Et donc, on va parler un petit peu de cette fête. Donc là, on est dans la cour du Clos del Pais. Autour de nous, il y a des stands qui commencent à s'installer. Hein. C'est encore le matin. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Il pleut pas. C'est déjà bien. Et derrière nous, alors là, vous le voyez pas. Vous êtes dos. Il y a une étonnante bulle gonflée avec des étoiles dessus.
C'est un planétarium, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'intérieur, on est dans le noir complet et on est comme immergé dans la voûte céleste. Ça va plaire beaucoup, beaucoup à tous les enfants, voilà. Mais aux grands aussi.
Oui, alors nous on n'a pas encore testé parce qu'on était en train d'installer, mais je pense que dès qu'on a une pause, on va les glisser dessous. Et donc c'est pas un hasard évidemment qu'il y a un planétarium pour cette fête des 20 ans, parce que cette fête des 20 ans, donc c'est l'occasion de fêter les 20 ans du parc, peut-être de revenir un peu sur les actions, de publiciser un peu certaines choses, mais vous avez fait un choix assez fort en termes de programmation, de vous focaliser sur la nuit. Est-ce qu'on peut un peu expliquer comment vous en êtes arrivé là ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux événements qu'on a souhaité un peu conjuguer. Tout d'abord, les 20 ans du PNR, hein, bien sûr, puisque ce PNR a été créé en 2004 et au mois d'avril, ça faisait 20 ans tout juste. Donc, ça méritait d'être fêté. Et puis, comme nous avons obtenu une labellisation qui est assez rare, qui est assez prestigieuse, puisqu'il n'y en a qu'une petite vingtaine dans le monde, la réserve internationale de ciel étoilé, on a décidé de pouvoir conjuguer ces deux événements et d'essayer de mettre sur pied ce premier festival d'astrophysique où nous avons des invités prestigieux, puisque on a déjà tout ce qui est astro. Alors on a un astronaute, hein, Jean-Loup Chrétien, qui est là, qui est l'invité d'honneur, et puis des astrophysiciens qui viennent nous expliquer un petit peu la création de l'univers, les trous noirs, les trous de verre, etc., comment ça marche, mais d'une manière grand public, hein, accessible à tous. Donc faut pas avoir peur du mot conférence, c'est vraiment quelque chose, un discours très adapté et compréhensible par tous.
Oui, alors on va recevoir quelques-uns autour de cette table et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que c'est vraiment des spécialistes, un peu les pointures dans le domaine astrophysique quoi, en France.
Eh bien, j'ai la chance, alors voilà, sur Mémac, d'avoir le directeur tout juste retraité, là il y a un mois ou deux, l'ancien directeur donc du coup de l'Institut d'astrophysique de Paris, François Boucher, qui nous a fait venir plusieurs de ses collègues. Et donc, on a vraiment un plateau de très, très haut niveau, puisque ça fait partie des meilleurs spécialistes mondiaux de cette question. Et en plus, on a eu accès à du matériel, si vous voulez. Quand on va nous expliquer la mission Euclide, quand on nous fait voir... une maquette, etc. d'Euclide, ça ce sont des premières mondiales, hein, puisque ce sont des outils qui ne sont jamais sortis de l'Institut d'Astrophysique de Paris. Voilà.
Alors tout ça, pour à la fois assister aux conférences et voir un peu les animations, il faut venir à MEMAC, c'est ça? Tout se passe un peu dans...
Absolument, n'ayez pas peur du temps, puisque ça a l'air de tenir, il y aura peut-être quelques gouttes au cours de la journée, mais toutes les animations se font à l'abri ou en intérieur. Il y a plusieurs sites, il y a le site du cinéma pour les conférences, mais il y a aussi le gymnase, il y a des expositions, il y a, vous voyez ici, sous la halle, on a le planétarium, donc tout est à l'abri, n'hésitez pas, vous pouvez venir.
Puis on peut confirmer, il fait pas froid, nous on est presque en t-shirt, sous notre petite tente, il fait pas du tout froid. Donc effectivement, c'est vraiment une bonne occasion. Il fait même, c'est agréable parce qu'il n'y a pas de soleil, on n'est pas trop chaud. On a dit que c'était à MEMAC, vous avez cité quelques lieux. C'est une déambulation qui peut se faire à pied.
Voilà, toute la ville et tous les... C'est pour ça qu'on l'a fait ici aussi, parce qu'il fallait un certain nombre d'équipements suffisamment grands pour accueillir tout le public. Et donc voilà, ça a été le choix. Le soir, par contre, l'ouverture, ça s'est fait à 1000 vaches. Sur le site du PNR, avec un grand repas, on était pas loin de 200, il y avait beaucoup de monde, un concert absolument extraordinaire, un concert nocturne, des observations d'étoiles avec les sociétés d'astronomes amateurs, on en a 5 qui sont là, de Clermont, de Limoges, de Paris, etc. Donc vraiment des intervenants de très grande qualité, et qui décrypte pour nous le ciel et l'histoire du ciel, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui.
Il y aura encore d'autres choses à 1000 vaches ou ça reste sur MEMAC maintenant?
Ce soir, c'est encore sur 1000 vaches avec des balades nocturnes, de nouveau le concert et des animations sur le site du PNR.
Voilà, donc un beau festival. Alors c'est aussi l'occasion de faire peut-être un bilan hein, du PNR, mais de marquer un peu le coup de ces 20 ans, parce que c'est quand même pas rien, 20 ans. C'était, tout le monde pariait pas sur 20 ans quand ça a été créé. C'est une longévité quand même remarquable.
Et on espère que ça va durer, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, cet outil PNR est primordial dans notre... société qui évolue, hein, d'un point de vue climatique notamment, où on voit un effondrement de la biodiversité, enfin plein d'atteintes à notre environnement, et nous on est là justement un peu pour être des vigies, voire des lanceurs d'alerte, et en tout cas inventer des solutions pour essayer de contrecarrer tout ça et garder le plus beau. On est dans un écrin absolument merveilleux ici, tout le monde, tous ceux qui passent, je vois les astrophysiciens qui viennent de loin, Jean-Loup Chrétien qui me le disait encore hier, et on est dans un environnement absolument exceptionnel, il faut vraiment le garantir, le prémunir, l'améliorer si c'est possible, parce que c'est vraiment un outil d'avenir, un outil d'attractivité pour tout notre territoire. Et quand je repense en 2004, les gens qui avaient peur de cette création en se disant ah, ils vont mettre le territoire sous cloche, on pourra plus rien faire, etc. C'est pas du tout le cas, c'est un territoire vivant, vous voyez bien aujourd'hui, et cet outil est absolument essentiel pour demain.
Alors, parmi les outils, donc celui qui est mis en avant sur ce festival, c'est la réserve internationale de ciel étoilé. Donc c'est à la fois l'idée, c'est de favoriser le fait d'avoir un ciel étoilé, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça, l'idée, parce que c'est aussi un outil de gestion de protection de la biodiversité.
Ça touche tous les domaines, en fait. Du domaine de l'énergie, quand on invite les collectivités ou les entreprises à réduire à éteindre du moins les lumières la nuit, et ça leur permet de faire des économies, c'est bon pour la planète, ça... utilise moins d'électricité, etc. Donc tout bon. Pour la biodiversité, c'est essentiel, mais même pour la santé humaine. parce que il y a des études qui montrent que trop d'éclairage, ça nuit à la santé humaine, ça nuit à la récupération, la nuit nocturne, etc. Donc, pour tous ces domaines. Et puis ensuite, c'est une image. C'est vraiment une image d'un territoire qui est préservé, qui est pas pollué, et c'est un gage d'attractivité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui recherchent ces territoires, et donc on s'aperçoit, puisqu'on l'a fait évaluer ça par l'INSEE, on s'aperçoit que notre territoire aujourd'hui gagne en population grâce aux venus qui sont des gens qui viennent de l'extérieur et qui recherchent cet environnement préservé et serein. Voilà, donc on a tout à gagner en utilisant et en surfant sur cette image.
Cette image et ce levier, quoi, en fait.
C'est un levier, très clair. Un levier économique. Il ne faut pas négliger cet aspect des choses, puisque plus de population sur un territoire, c'est un territoire plus dynamique, plus vivant. Il y a l'activité économique qui va avec.
Voilà, pour explorer ce dispositif et toutes ces variations et tout ce qu'il y a autour, on vous invite à venir à MEMAC aujourd'hui. Ça se termine demain ?
Ça se termine demain en début d'après-midi, tout à fait.
Voilà, donc il y aura quand même à peu près le même genre d'animation encore demain.
Il y a encore des conférences, voilà. Et puis l'accès à tous les sites pour les enfants et pour les grands.
Alors, où est-ce qu'on peut trouver les informations si on veut suivre telle ou telle conférence ?
Alors, le programme est sur le site internet du PNR. Il doit être aussi sur le site de la mairie, sur l'application de la mairie intramuros, la MEMAC. Voilà, on peut le trouver assez facilement. Et puis en papier, en venant sur place, on le trouvera.
Voilà, donc venez sur place et puis vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Philippe Brugère, merci. Et puis
merci à vous, bonne journée.
On vous souhaite une bonne journée.
Bon festival.
Merci.
Bonne journée, bon festival.
Comme si ce n'était que du vent, plus rien ne sera comme avant. 26 hivers, mais fin d'hiver, et pourtant, plus rien ne ressemble à now.
c'était Autour de Lucie, ceux qui ne rêvent pas aux étoiles. Et on est toujours en direct de Mémac avec Raphaël.
Oui, alors ceux qui ne rêvent pas aux étoiles, alors peut-être qu'on a en face de nous quelqu'un qui a pas mal rêvé aux étoiles, et peut-être rêve encore aux étoiles. On a vraiment l'immense honneur et le plaisir de recevoir Jean-Loup Chrétien. Bonjour.
Bonjour.
Ah, alors voilà, avec le micro ouvert, on vous entendra mieux. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Loup Chrétien, on va quand même vous présenter. Vous êtes un ancien astronaute. Vous avez été le premier Français dans l'espace. Alors aujourd'hui les jeunes, il y a Thomas Pesquet qui envoie plein de choses sur Instagram, qui communique beaucoup et voilà, qui est un peu là. Mais moi, quand j'étais petit, quand on regardait la télé le soir, on regardait Club Dorothée. Et puis un jour, en allumant ma télévision, j'ai entendu ça.
Ici nos amis, nos jeunes téléspectateurs, aimeraient savoir l'impression que vous avez eue en sortant dans l'espace.
La sensation, la sensation que j'ai eue en sortant.
Oui.
Ah, c'est absolument fantastique. J'étais à la fois émerveillé, excité. C'était un moment absolument inoubliable.
Et qu'est-ce que vous voyez, vous, de là-haut?
Comment?
Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la Terre?
Eh bien, on est sorti, il faisait encore nuit, c'était de nuit orbitale, donc on avait encore quelques minutes de nuit, donc on est sorti au moment de la nuit noire, et on voyait déjà l'horizon de la Terre, l'horizon tout rond de la Terre, qui était tout bleu, l'aube qui s'approchait tout, au bout de quelques minutes, et ce qui fait qu'on a fait une portion de tour de Terre entre la zone de nuit et la zone de jour. On a vu l'aube pour la première fois en 4 ans à l'extérieur du véhicule.
Est-ce que vous êtes heureux là-haut?
Ah, parfaitement heureux. Hein. Je vois simplement le compte à rebours qui commence et je suis un peu triste de voir que le vol se termine déjà.
Voilà, c'était en direct de l'espace, en direct de la station. Alors c'était la station Mir.
Oui,
c'est ça.
Station Mir.
Voilà, donc c'était donc. On va peut-être refaire un peu votre parcours. Vous avez d'abord une carrière militaire, puisque vous étiez pilote de chasse.
Oui.
Pendant de nombreuses années, vous avez donc sillonné l'atmosphère. Et puis, un jour, en 1980, vous avez été affecté au CNES et vous êtes préparé pour votre premier vol habité.
Tout à fait. Donc, le recrutement du CNES a eu lieu en septembre 1979. Il faisait suite à un recrutement malheureux 2 années avant, organisé par l'Agence spatiale européenne, donc pour trouver les Européens qui partiraient à Houston s'entraîner pour voler sur la navette et le Space Lab. Et effectivement, aucun Français n'avait été retenu, donc c'était un choc un peu douloureux pour le pays, pour notre président, et qui a accepté rapidement la proposition russe de remplacer ce trou, si on peut dire, par cette proposition des Russes d'envoyer un Français là-haut, avec un petit commentaire qui était l'envoyer avant ses collègues partis à Houston.
Et donc, alors, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous aviez déjà rêvé, pensé, aller dans l'espace?
Alors, j'avais rêvé depuis longtemps, depuis le vol de Yuri Gagarin, donc quand même presque 20 ans avant. Et j'avais maintenu cette démarche, espérant faire tout ce qu'il fallait pour le jour où. Donc, alors, il y avait eu... Évidemment, cette déception de 1977, j'étais parmi les candidats français qui se présentaient au recrutement de l'Agence spatiale européenne. Et puis, un malheureux de plus parmi tous les autres malheureux, donc qui n'avaient pas été retenus.
Alors, vous étiez malheureux, mais après, vous avez été l'heureux élu. Comment ça se fait? Il y a eu une sélection? Comment ça s'est passé?
Alors, le Centre national d'études spatiales, après la décision du président de la République d'accepter cette proposition, le CNES a été chargé d'organiser cette sélection. Donc, on a été effectivement nombreux. De nombreux dossiers sont arrivés au CNES. Une première sélection par le CNES a éliminé à peu près la moitié des candidats, et je crois me souvenir qu'il en restait quelque chose comme 500, 500 ou 600, qui ont commencé à passer à la moulinette, donc les séries de tests. Tous les 15 jours à peu près, on repassait les tests. À chaque fois, la moitié des candidats étaient éliminés. Et on s'est retrouvé à 4 ou 5 en mars 1980. Nous sommes partis à Paris en stage de russe intensif. Alors c'était rigolo, parce qu'on sortait chacun de nos ambiances précédentes. Et on se trouvait d'un seul coup dans un univers... L'univers, c'était pas l'univers de l'espace, hein. Là c'était, c'était le quai de Grenelle, donc un centre de langue où on s'est mis à apprendre le russe. Donc l'ambiance, notre ambiance professionnelle précédente, elle était complètement effacée. Alors après, on nous a envoyé faire un stage de parachutisme à Pau. Et je crois que c'était la dernière étape. Et en juillet, on nous annonçait, donc à deux, Patrick Baudry et moi-même, qu'on avait été retenus. Et donc on partait à Moscou le 1er septembre.
Ah, du coup, c'est déjà un premier dépaysement, partir déjà. Parce qu'à l'époque, c'était donc l'URSS. C'était quand même un monde qu'on connaissait mal, qui était vraiment. Qui avait une image très lointaine et peut-être même un peu.
Faire peur. C'était. Donc, on était quatre sur les cinq. On était trois militaires, trois pilotes de chasse. Et on avait été entraînés pour faire face aux dangers de l'Est. Donc on ne s'attendait pas du tout à partir à Moscou, mais pour aller dans l'espace, que ne fait-on pas? Et pour moi particulièrement, j'ai été à l'état-major de la 4e région aérienne à Aix-en-Provence, et j'étais chargé des exercices et manœuvres avec la 6e flotte américaine, donc j'étais plutôt branché américain. Et la 6e flotte américaine, donc toutes les 3 semaines à peu près, on se retrouvait sur un porte-avions américain de la 6e flotte pour préparer les exercices suivants. Donc c'était pas du tout préparé à partir vers l'Est, mais ça a été une expérience fantastique, et comme on dit toujours, pourquoi pas. Et on a eu affaire à des gens fantastiques qui nous ont tout donné, et dans le sillage de nos anciens du Normandie-Niemen, qui avaient encore 3 survivants à l'époque, qu'on avait rencontrés, qui nous avaient raconté leur épopée du Normandie-Niemen et leur épopée avec cette grande Russie, et un pays qui leur avait tout donné. Et on a retrouvé la même chose quand on est arrivé avec Patrick à la Cité des Étoiles. On a eu affaire plus à une famille qu'à des instructeurs. Et effectivement, des gens qui ils ont tout donné. Pendant 2 ans, ils ont tout fait pour que cette mission réussisse. Et on est tombé amoureux de la Russie. Et je le dis haut et fort aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que des Russes qui font la guerre, il n'y a pas que des Russes qui déclarent la guerre. Il y a les Russes de l'espace, les hommes de l'espace ne pensent pas beaucoup à la guerre, pensent surtout à la survie en milieu hostile. C'est notre mission, l'explorateur de milieu hostile. Dans ces cas-là, les rancœurs du sol ne montent pas jusqu'à cette altitude. Et pour la petite histoire, sachez qu'aujourd'hui, les Américains et les Russes dans l'espace coopèrent toujours. Et discrètement, on a un équipage qui va partir en août. 4 personnes, l'équipage NASA, donc un vaisseau SpaceX, part pour 6 mois sur l'ISS. Il y a 3 astronautes américains et 1 cosmonaute russe, et le commandant de mission est un Américain, c'est un colonel de l'US Space Force, donc il est détaché à la NASA comme je l'étais moi-même, mais ça reste un colonel de l'US Space Force, donc ce qu'ils appellent là-bas les Guardians, la nouvelle Space Force, et ils partent au moins tous les deux, lui colonel de l'US Space Force, avec un cosmonaute russe.
Voilà, donc toujours de la collaboration. Donc 2 ans.
Ça c'est très fort. Ça rappelle l'époque Apollo Soyuz.
Oui.
Et cette grande coopération à haute altitude. On est concerné, bien sûr. On est citoyen des pays que l'on représente. Et Le problème de la guerre actuelle est un problème de surface, un problème politique. On est malheureux et on ne se sent pas directement concerné.
Alors, deux ans de bonheur à Moscou. Et puis, en 1982, c'était le grand voyage. On ne peut pas imaginer un voyage beaucoup plus grand, je crois.
Alors, c'était le rêve. Il se trouve aussi, je voulais passer une petite parenthèse, en 1977, après cet échec de la sélection française de l'Agence spatiale européenne, je mijotais un autre volet de carrière. C'était un autre vœu que j'avais à la même époque, quand j'étais gamin, que je voulais devenir aviateur. J'avais aussi un autre vœu, c'était devenir organiste de cathédrale. Donc je travaillais beaucoup l'orgue, et donc en 1977, après cet échec, je me suis dit, bon, je me tourne vers l'orgue, et j'embrasse une carrière d'organiste. Et puis l'affaire de 1980 est arrivée, et donc j'ai remis à plus tard cette... deuxième vocation.
Et d'ailleurs, on connaît quelques images où on vous voit jouer. Alors, vous n'avez pas pu embarquer un orgue vraiment dans l'espace, mais enfin, vous aviez tout de même amené un synthétiseur, Yamaha, je crois, c'est ça.
Voilà, et puis j'ai essayé de me rattraper ces dernières années, donc j'ai terminé au commencement du Covid cette année de conservatoire. L'école d'orgue du conservatoire de Brest.
Alors voilà, donc le grand voyage vers la station Mir, et vous y êtes resté quand même assez longtemps.
Presque un mois, ouais, c'était le premier vol. Alors c'est un vol qui devait durer initialement 3 mois, puis qui a été réduit à 1 mois, peu de temps avant le décollage, car il manquait un module sur Mir qui n'était pas prêt, et donc il nous a... obligé à raccourcir la mission, donc, qui pour moi était une mission courte, un mois. Vous l'avez entendu tout à l'heure, quand je disais, pas pressé de rentrer, mais la fin du vol approche. Donc, ça a été un mois très court.
Très court, mais intense, j'imagine.
Et très intense.
Vous aviez quoi, des expériences scientifiques dont vous aviez la charge un peu ?
Oui, c'était une mission scientifique et technique, puisqu'à l'époque, la France avait commencé, avec l'Agence spatiale européenne, à travailler sur le programme Hermès, qui était un véhicule spatial européen, qui a été abandonné quelques années plus tard. Et là, on était en pleine effervescence, donc certaines expériences technologiques étaient tournées vers ce programme Hermès.
Est-ce qu'il y a une part de vous qui est restée un peu dans l'espace aujourd'hui ?
Ah, je pense, oui. On est tous restés un petit peu là où.
Vous avez continué après. Alors vous n'avez pas fait qu'un seul vol. Hein. Je crois que vous avez fait combien de missions
Alors en 1992, en 1984-85, je suis parti à Houston avec Patrick Baudry. On a versé les rôles, donc j'ai été la doublure de Patrick, ce qui m'a permis de bien connaître la NASA. Et en 1992, à la chute du mur, à la fin de l'URSS, j'ai été invité à Washington pendant une semaine, un groupe de travail qui devait déterminer si effectivement les Américains acceptaient l'idée de travailler avec les Russes, le programme en particulier de l'ISS. Et à l'issue de ce séjour, où on a effectivement poussé vers cette acceptation, le patron de la NASA à Houston, que je connaissais bien, qui était un très grand ami, et m'a appelé et m'a dit, mais est-ce que tu es prêt à venir nous aider à travailler avec les Russes ? Ce sera une affaire d'une année ou deux. Alors, j'ai dit, bien sûr. Donc, je suis parti presque la semaine d'après à Houston avec mes bagages, et j'ai intégré le corps des astronautes NASA. Et donc, théoriquement 2 ans, et en fait j'y suis toujours. Aujourd'hui, je suis toujours à Houston. Donc j'ai fait, en 98, l'âge de 60 ans, donc j'ai été obligé de prendre la retraite administrative française. Les Américains m'avaient proposé donc de rester là-bas. Je suis devenu astronaute américain, astronaute NASA à Houston. J'ai pris la double nationalité. Et Et j'ai terminé ma carrière spatiale donc comme astronaute US et en même temps assistant du directeur du centre pour les opérations internationales de l'ISS.
Et aujourd'hui, vous continuez un peu à parcourir un peu le monde pour parler de votre expérience ?
Non. Je suis vice-président pour la recherche et développement de d'une petite société américaine qui a été formée par quelques personnes de la NASA Houston à l'époque, en 2001. Et donc, je suis passé de l'autre côté de la rue. C'est une société qui est sous l'aile de la NASA, comme pas mal d'autres. Et on travaille 70% de nos contrats, nos programmes sont avec la NASA.
D'accord. Donc on a la chance de vous avoir. C'est assez rare du coup de pouvoir vous entendre.
Je passe 6 mois là-bas à peu près par an.
Alors, pour ceux qui veulent vous entendre plus en longueur, à 11h30, vous donnez une conférence qui s'appelle Expérience dans l'espace. Alors, j'ai pas le lieu, mais enfin, c'est à Mémac. Donc, venez à Mémac. C'est au Clos. Oui, voilà, c'est au Clos del Pays, dans la salle de conférence. Vous avez parlé de quoi un peu dans cette conférence ?
Alors, c'est plus le titre a été donné par les organisateurs. Le titre, c'est 2 siècles pour atteindre les étoiles. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, à peu près, en matière d'exploration spatiale par l'homme, de décrire 2 siècles. Au-delà, ça devient de... Et même 2 siècles, c'est certain que à la date de la fin du 2e siècle, ce que je dirais aujourd'hui ne sera peut-être pas du tout ce qui va arriver. Et donc on en est aujourd'hui à peu près à la fin du 2e demi-siècle. On procède par 2 siècles. Et montrer un petit peu cette curiosité qui est la progression humaine dans la 3e dimension qui se fait par bonds successifs, des bonds de 50 ans. Donc on a eu le premier bond de 1900 à 1950 plus 10, 60 avec le vol de Yuri Gagarin. Et puis après on a un deuxième bond qui arrive à 2010-2020. Et puis là on repart sur la Lune. Donc c'est après ce 2e demi-siècle plus 10, on repart vers la Lune et on espère s'installer sur la Lune et peut-être lancer la première mission martienne. Et puis le 4e demi-siècle, ce sera peut-être, je dis bien peut-être, l'installation permanente sur Mars. Et puis après il n'y a plus rien parce que dans le système solaire, on n'a que 7 planètes qu'on peut vraiment visiter, donc la Lune et puis Mars. Au-delà, il n'y a rien du tout. Donc après, ce n'est pas une question de demi-siècle, c'est plutôt une question de demi-millénaire ou de double millénaire. Donc après, c'est de la science-fiction.
Ben voilà, donc du coup, pour écoutez, le développement un peu de ce dont vous venez de parler, rendez-vous à 11h30 à la salle de conférence du Clos del Pays à Mémac. Écoutez, Jean-Luc Chrétien, on vous remercie pour votre présence sur le plateau et puis on vous souhaite un bon festival.
Merci.
Et oui, merci.
Et on va se quitter, on va faire une petite pause musicale. On va partir avec une autre personne qui a côtoyé les étoiles, mais d'une autre manière, c'est David Bowie.
In the villa of Amen, in the villa of Amen, stands a solitary candle.
Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home.
I'm a black star.
Take your passport and shoes.
I'm a pop star.
And your sedatives and booze.
I'm a black star.
Vous êtes toujours sur Radio Vassivière. Si vous êtes à Meymac avec nous, vous nous écoutez en direct du 103.1. Si vous êtes un peu plus loin, à Ussel, c'est peut-être le 92.3. Et si vous êtes en train de préparer les 10 heures de paddle avec Radio Vassivière pas loin sur la plage de Broussa, eh bien, vous nous écoutez sur le 88.6.
Oui.
On vient d'écouter David Bowie, Black Star, c'est ça ?
Oui, alors j'ai pas de retour.
Tu n'as pas de retour, mais c'est très étonnant cette situation.
Ah voilà, là c'est mieux.
C'était, ça te va mieux ?
C'était coupé.
C'était baissé.
Alors oui, voilà. Et donc on a laissé partir Jean-Luc Chrétien qui allait se préparer pour la conférence. Et maintenant on va rester un peu dans l'espace, mais depuis la Terre. Et on a le plaisir de recevoir deux astrophysiciens à table. Oui. Alain Riazvelo, bonjour.
Bonjour.
Et Daniel Kunt. Bonjour. Alors, dans le micro, par contre. Ouais. Pardon, excusez-moi.
Bonjour.
Voilà, sinon nos auditeurs et nos auditrices ne vont pas vous entendre. Daniel Kunt, vous êtes astrophysicien, directeur de recherche émérite à l'Institut d'astrophysique de Paris, j'y arrive. Vous avez fait votre thèse sur l'hélium primordial et les galaxies bleues en 1981. Et vous êtes connu comme étant un grand vulgarisateur de ces questions et des questions de l'espace en général.
Et initiateur de la nuit des étoiles.
Et voilà, on allait y venir, initiateur surtout de la nuit des étoiles qu'on connaît bien, dont vous avez été un des fondateurs, ou peut-être même le fondateur, c'est ça ?
Oui, ça a commencé au moment où j'étais au ministère de la Recherche et de la Technologie. Et à l'époque, le grand ministre que nous avions était Hubert Curien, et qui était très sensible, très intéressé par tous les aspects concernant la diffusion des connaissances. Et j'avais été sensibilisé par la fête de la musique qui venait de commencer à cette époque. Hein. On est en 90 ou 91. 90, oui. Et puis, en regardant les dossiers, je m'étais aperçu qu'il y avait eu une nuit des étoiles en région PACA. C'était quelque chose d'intéressant. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas généraliser ? Et donc, j'avais contacté les clubs correspondants, en particulier l'AFA, l'Association française pour l'astronomie, et qui étaient un petit peu réticents au début, mais qui ont vraiment tout de suite plongé dans l'idée, d'autant plus que je connaissais bien Hubert Reeves, qui lui-même avait des contacts avec Antenne 2, et Antenne 2 donc, a complètement changé sa programmation pour donner naissance à cette nuit des étoiles filantes, ça s'appelait alors, en 1991. Et depuis, ben, ça continue. Et les clubs, les associations de la France, et pas seulement en France, hein, mais en dehors de l'Hexagone, se sont emparés de cet événement. Il y en a même au Mexique, il y en a même eu en Guyane, il y en a un peu partout. Quoi. C'est formidable.
C'est ça, c'est beaucoup plus qu'une émission télé. Maintenant, ça couvre un peu le territoire et le public s'en est emparé. En tout
complètement.
Cas,
le but, d'ailleurs, c'était pas simplement de servir la télé. C'était justement de permettre aux clubs, aux associations, aux gens qui ont effectivement la possibilité d'organiser cela parfois, s'ils prennent 6 mois avant, hein, ou même un an avant. Oui. Ouais. Très important.
Et alors, à vos côtés, un collègue également de l'Institut d'astrophysique de Paris. Décidément, j'ai du mal à prononcer. Alors vous, Alain Riazvelo, vous êtes aussi astrophysicien et cosmologue, on peut
voilà,
le dire.
L'histoire ancienne de l'univers, ça a été mon premier domaine de recherche.
Alors quand on parle d'histoire ancienne, on parle d'histoire vraiment très très ancienne.
Voilà, 13,8 milliards d'années. On ne peut pas se représenter ces durées. On peut s'habituer à la musique du chiffre, mais on ne peut évidemment pas se représenter ce que c'est.
Et donc, vous explorez toujours ce...
Alors, j'ai commencé par là, et ensuite, peu à peu, je me suis intéressé aux trous noirs. Entre autres parce que dans le laboratoire qui était le mien en thèse, donc à l'observatoire de Meudon, il y avait Jean-Pierre Luminet, qui, célèbre vulgarisateur, mais qui scientifiquement s'est fait connaître à la fin des années 70 comme étant le premier à avoir simulé l'aspect qu'aurait un trou noir si on le voyait de près. Donc évidemment, c'était fait avec les moyens de l'époque, c'était très rudimentaire par rapport à aujourd'hui. Et de nombreuses années plus tard, quand moi j'ai eu mon poste au CNRS et que j'ai eu une sorte de liberté d'organiser ma recherche comme je voulais, j'ai continué j'ai repris ce travail, puisque j'ai recommencé de zéro en me basant sur évidemment ce qui existait, et maintenant c'est devenu un peu ma spécialité.
Alors vous avez également participé, co-réalisé un documentaire qui s'appelle Voyage au cœur d'un trou noir. Je vous propose d'écouter un petit extrait pour se mettre un petit peu dans l'ambiance d'un trou noir.
Il se passe des choses étranges autour du trou noir.
Alors oui, évidemment, un trou noir, c'est pas juste un objet, un cache parfaitement noir qui serait situé devant une image. Comme le trou noir est muni d'un champ gravitationnel très intense, il empêche la lumière de s'échapper quand elle est dedans, mais il affecte aussi la trajectoire de la lumière qui passe dans son voisinage. Et donc, au voisinage du trou noir, ce que l'on voit, ce sont des rayons lumineux qui sont passés très près du trou noir, et qui donc n'ont pas voyagé en ligne droite comme de coutume, mais qui ont été significativement déviés. Un trou noir défléchit tellement la lumière que un rayon lumineux peut faire le tour d'un trou noir, ou peut faire un demi-tour d'un trou noir. Et donc quand vous regardez un trou noir, vous allez voir évidemment les objets qui sont plus ou moins derrière lui, mais vous allez aussi voir les objets qui sont derrière vous, dont les rayons lumineux sont passés de derrière vous à devant vous, ont fait un demi-tour autour d'un trou noir, et sont parvenus jusqu'à vous de cette façon-là.
Voilà, une petite partie de ce voyage, alors un peu imaginaire évidemment, en tout cas à part la pensée.
Alors scientifiquement réaliste, oui. Mais fictionnel au sens où on n'a pas les moyens d'aller sur place pour vérifier.
Évidemment. Alors d'ailleurs, tiens, la nuit des étoiles, donc c'est de l'observation essentiellement, et on a plutôt tendance à penser qu'on observe des objets lumineux, mais pourtant un trou noir, il semble qu'on l'ait quand même un peu observé. Récemment ?
Oui, on a réussi à l'observer par des techniques indirectes, évidemment, comme je faisais remarquer mon collègue Alain. C'est pas le trou noir lui-même que l'on voit, c'est la lumière qui, autour, subit quand même des distorsions majeures, puisqu'au lieu de se propager en ligne droite, ça fait des choses intéressantes. Et ça donne effectivement des objets, des choses qui sont allongées, qui ont des formes qui ne sont pas leurs formes réelles. Et on a réussi à le faire en ce qui concerne le trou noir, parce que normalement un trou noir est entouré d'un anneau de gaz très chaud et qui gravite, qui tourne et émet des rayonnements, des ondes, en particulier des ondes radio. Et c'est par une technique extrêmement fine qu'on appelle d'interférométrie, pas interplanétaire, mais intercontinentale, qui permet d'avoir une résolution, une définition extrêmement bonne d'un objet comme ça. On a pu photographier et s'apercevoir qu'il y avait un anneau.
En 2019, hein, c'est ça, je crois.
En 2019, pour la première version. Il y a deux trous noirs qui sont suffisamment gros, suffisamment proches pour qu'on puisse les voir. Il y a le trou noir central de notre galaxie et le trou noir géant d'une autre galaxie qui est en gros 2000 fois plus gros et 2000 fois plus loin. Mmh. Et donc ce que vous perdez à cause de la distance, vous le compensez grâce à la taille. Mmh. Et donc ces deux objets peuvent être imagés avec le même degré de difficulté. Et le premier des deux, c'est donc pas celui de notre galaxie, c'est celui de la galaxie M87 qui est un objet connu des astronomes amateurs, hein, la galaxie M87, on la voit avec un petit télescope. Et bien, on a réussi à voir la silhouette de cet objet, donc sa silhouette entourée d'un halo lumineux.
Mais oui. C'est une prouesse internationale. Ça montre aussi comment travaillent les astronomes. Ils travaillent en collaboration inter-établissement et avec des nationalités différentes, des façons de faire qui sont parfois différentes, mais ils mettent en commun leur savoir-faire. Ça ne serait pas possible sinon.
Oui, c'est ça. Je crois que si je me souviens bien, la technique, c'était il y avait trois, c'est une triangulation, c'est ça, trois points d'observation.
Il y avait plutôt une dizaine. Qui s'étalait du pôle sud au Mexique, Hawaï, le nord du Chili. Et puis l'Europe avec donc un site au sud de l'Espagne et un site en France métropolitaine sur le plateau de Bure, donc dans les Alpes du côté de Gap. Et c'est parce qu'on a des sites d'observation aussi éloignés que possible que ça marche. Et donc la part européenne de ces observations, elle est cruciale parce que les deux sites européens étaient dans le coin de ce réseau. Et si vous enlevez un des coins, ben vous dégradez de façon délétère la qualité des données. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette à plusieurs et espérer que sur tous les sites, quand vous observez, il fasse beau partout. Et ça a été quand même un gros coup de chance, parce que même si les radiotélescopes sont installés dans des endroits où globalement la probabilité de beau temps est bonne, que sur 10 sites en même temps de par le monde, il fasse beau, c'est quand même un petit coup de chance.
Bon, du coup là pour aujourd'hui à MMAX, c'est mal barré.
Oui, ce sera un peu compliqué aujourd'hui. les sites sont en altitude et dans des endroits relativement secs, donc... Voilà, on peut faire de la radioastronomie depuis la métropole, mais plutôt en altitude, hein. Le plateau de Bure, c'est 2700 mètres d'altitude, et c'est indispensable parce que la vapeur d'eau est une source de pollution extrêmement importante pour les ondes radio, peut-être encore plus que pour la lumière visible, parce que même quand vous ne voyez pas de nuages, s'il y a trop de vapeur d'eau, ça vous gêne.
Et alors, pour alors, vous particulièrement, vous avez travaillé sur les trous noirs, j'imagine que c'est un objet aussi que, auquel vous étiez habitué. Mais alors, quand on travaille, voilà, on sait que ça existe, on peut l'imaginer exactement quelle forme ça a, etc. Le fait de voir comme ça, au bout de tant d'années, avoir une véritable photo, parce que c'était quand même vraiment une photo, ça doit être quelque chose d'assez émouvant.
Oui. Alors, ce qui est fascinant, c'est que en fait, l'idée de la technique de détection, elle est née dans les années 90. Et le problème, c'était pas un problème d'optique, c'était un problème d'informatique. C'est-à-dire qu'il fallait enregistrer un signal avec un débit extrêmement rapide, qui était plusieurs gigaoctets par seconde. Donc, une clé USB par seconde, si vous voulez. Et dans les années 90, ce que faisaient les disques durs, c'était quelques mégaoctets par seconde. Et donc, on avait un facteur 1000, qui était du hardware informatique, était 1000 fois trop lent pour vous permettre de faire ce qu'on voulait. Et à l'époque, les radioastronomes ont discuté avec des fabricants de disques durs, hein, que, voilà, Western Digital, Seagate, les trucs qu'on a dans nos ordinateurs. Ils leur ont demandé, mais alors, dans combien de temps est-ce que vous pourrez multiplier par 1000 la vitesse d'écriture sur vos disques? Et les industriels ont dit, bon, dans 15, 20, 30 ans, on va finir par y arriver. Et effectivement, voilà, 20 ans plus tard, on y est arrivé. Donc souvent, en recherche, bah, vous vous donnez un objectif. Et souvent, comme l'objectif est ambitieux, la technologie est en retard. Et puis, ben, vous stimulez le développement de la technologie pour arriver à vos fins. Donc, la recherche fondamentale, ça sert à l'industrie, ça sert à la société à la fin. Parce que si aujourd'hui, on vous mettait des disques durs qui ont une vitesse d'écriture de celle d'il y a 25 ans, beaucoup de gens râleraient. Mais voilà, ça a été en partie stimulé par cette demande des chercheurs.
Il faut ajouter qu'auparavant, on n'a pas fait l'image autour du trou noir, mais on a fait quelque chose qui a permis de prouver l'existence du trou noir. Et ça a été fait pour le centre galactique d'une manière magistrale par une équipe, bon, c'était international, mais surtout par une équipe allemande pilotée par Genzel, qui a eu le prix Nobel pour cette réussite. Et là, il s'agissait de regarder la position d'étoiles autour de la position putative de ce trou noir. Mais il a fallu des années pour ça. Et d'abord des années pour voir effectivement l'évolution de la trajectoire des étoiles concernées. Il y en avait plusieurs, dont une qui passait extrêmement près de là où se trouvait le trou noir. Mais il fallait également une résolution, un détail absolument fabuleux qui n'a été possible qu'en ayant recours à des techniques dites d'optique adaptative, où effectivement on arrive à s'affranchir de la turbulence atmosphérique. En optique, on n'est plus en radio là, hein. Et on a obtenu des images absolument merveilleuses, non pas du trou noir, mais permettant de calculer les orbites et de voir que les étoiles accéléraient au passage de quelque chose qu'on ne voyait pas. Il n'y avait absolument rien d'autre.
On a un film réalisé sur une quinzaine d'années d'observation,
oui,
où on a fait des clichés toutes les semaines pendant 15 ans. Sur chaque cliché, on a enlevé tout ce qui ne changeait pas d'un cliché à l'autre. On a gardé que ce qui bougeait. Et ce qui bougeait, c'est les étoiles qu'on voit toutes tourner autour d'un objet central.
Et
les lois de la mécanique céleste nous disent que cet objet central doit avoir une masse de 4 millions de fois la masse du Soleil pour expliquer ses mouvements. Cet objet, il ne brille pas, il est très massif. Donc, c'est un trou noir. C'est une preuve un peu par élimination à la Sherlock Holmes. Quand on a enlevé tout ce qui est impossible, ce qui reste, même si ça paraît bizarre, même si ça paraît improbable, c'est forcément la vérité.
Alors le trou noir, c'est un objet qui fascine aussi le grand public. Hein, on a, dans le cinéma, il y a eu beaucoup de représentations de cet objet, alors, plus ou moins proche de la réalité, parfois un peu fantasmé. Oui, alors là, c'est pas un trou noir qu'on entend, c'est la pluie totalement atmosphérique qui vient un petit peu rincer la tente dans laquelle on est. Donc, j'espère que vous nous entendez encore bien. Est-ce que c'est un objet qui permet aussi d'accrocher un peu le public et, voilà. Est-ce que le grand public est friand un peu de ces objets-là, pour l'avoir vu beaucoup dans la culture, dans les films, dans les romans de science-fiction? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent vous voir en vous posant des questions sur cet objet et qui ça permet un peu de les accrocher un peu pour parler de l'espace un peu plus largement?
Oui, non, mais c'est vous-même, hein, vous nous interrogez là-dessus, ça vous intéresse. Je pense que c'est très largement partagé par le public et les jeunes. depuis très longtemps, ça fait partie de la science-fiction et également, ça, c'est sans aucun doute. D'ailleurs, je trouve qu'effectivement, la culture scientifique, parfois, elle s'adresse à des aspects spectaculaires de ce genre, alors que beaucoup, je me suis aperçu lors de débats avec le public qu'on avait organisé à Montreuil d'ailleurs à ce sujet, on s'était aperçu qu'il n'y avait pas de fondamentaux. Les fondamentaux souvent manquaient. Qu'est-ce qu'une étoile ? Différence entre une étoile et planète ? Beaucoup de gens ne le savent pas. Ou est-ce que vous avez vu la Voie lactée ? Beaucoup de gens ne l'ont pas vue, alors que c'est possible pour tout le monde à l'œil nu. Mais ils connaissent les histoires reliées au trou noir parce que c'est spectaculaire. C'est assez curieux.
Alors c'est possible de voir la Voie lactée à l'œil nu, à condition d'habiter dans un endroit où on peut voir la Voie lactée. Il y en a peut-être pas tant que ça aussi. Ça, peut-être ça peut expliquer aussi une sorte de déconnexion sur ce qui est le plus visible. Alors vous, évidemment, en tant qu'observateur professionnel du ciel, vous y avez accès beaucoup plus largement, mais c'est vrai que le grand public qui habite en ville ou même pas forcément en ville, quand il lève le nez, il lève les yeux au ciel, il voit pas forcément toutes les étoiles.
Il verra pas la Voie lactée, il verra pas toutes les étoiles, d'ailleurs personne ne voit toutes les étoiles, mais il voit beaucoup plus, il verrait beaucoup plus de choses si pour autant il prenait la peine de regarder.
Ça s'apprend, observer ça s'apprend.
Même à Paris. À Paris, on peut voir Jupiter, on peut voir Vénus, on peut voir Mars, on peut voir Saturne. À Paris, c'est la plus grande ville de France. Voilà. Et même quand il y a de la pollution lumineuse, il y a quand même quelques ténors que l'on peut encore voir. Non ?
Oui, oui, absolument. Mais on a pas d'enseignement d'astronomie, sauf à l'initiative des enseignants, que ce soit au collège ou au lycée. Il y a un tout petit peu d'initiation au système solaire en école primaire, mais les enseignants d'école primaire ne sont pas forcément des gens qui ont fait d'études scientifiques. Donc moi, je fais un peu de la formation d'enseignants de primaire. Et ils sont en demande parce qu'ils n'ont pas ça dans leur formation et donc ils ne savent pas en parler. Et comme ils ne savent pas en parler, bah des fois, ils n'osent pas en parler. Et dès l'école primaire, il y a une demande et des enseignants et des élèves parce que dans notre institut, en octobre, pendant la fête de la science, on reçoit une soixantaine de classes. Et tous les gamins qu'on voit, ils sont ravis d'avoir une petite initiation à l'astronomie. Donc on ne leur montre pas le ciel la nuit, hein. Ils viennent pendant la journée, pendant les heures de cours. Mais on leur explique ce qu'il y a dans le système solaire, on essaie de leur donner une idée des distances, tout ça. Et c'est une forme de révélation pour ceux d'entre eux qui n'ont jamais lu quoi que ce soit d'astronomie. Et on voit qu'on peut les intéresser à la science avec ça, donc c'est important.
Oui, vous-même, enfant, vous avez eu accès à la découverte du ciel par des gens qui vous en ont parlé, j'imagine ?
Alors moi, personnellement, non. Alors j'ai habité Marseille, ça s'entend pas, mais je suis né à Marseille. J'ai visité, je crois que c'était en quatrième, l'observatoire de Marseille. Et c'est la première fois que j'ai entendu un peu parler de ça. Et effectivement, oui, c'était à l'initiative de ma prof de maths de quatrième que de nous faire une sortie scolaire dans un établissement d'astronomie. Mais elle n'avait aucune obligation de le faire. Alors, on l'avait fait parce que c'était 86, c'était le moment où la comète de Halley s'approchait de la Terre. Donc il y avait une actualité astronomique qui avait stimulé cette initiative-là. Mais ça relevait de l'initiative individuelle des enseignants.
Et puis sinon, il y a les espaces comme aujourd'hui, donc les festivals, alors qu'il n'y a pas un festival d'astronomie à proprement parler, mais un peu quand même, parce qu'il y a plutôt des choses assez pointues et puis assez variées sur l'observation du ciel. C'est des endroits où, j'imagine, vous traînez beaucoup, Daniel.
On aime bien, non, je ne traîne pas, mais il y en a, oui, effectivement. Il y a pas très loin d'ici, à Florence, il y en a eu du côté de Lens-le-Bourg, à une certaine époque. Non, il y en a dans le Midi. Non, je crois qu'effectivement, ça fleurit un peu partout, et pas seulement en France. Donc je trouve ça très, très réjouissant d'accueillir tous les jeunes et les moins jeunes. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, j'insiste vraiment sur le fait que même dans une ville, on peut voir des choses formidables. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu ce qu'on appelle l'alignement des planètes, le matin de bonne heure. Bon, il fallait se lever très tôt, mais on voyait les planètes à l'œil nu, même dans une grande ville, on les voyait se lever. Il y avait Saturne, Jupiter, et tout le monde était là, hein, presque en ligne droite, juste avant le lever du soleil. C'était formidable. Je me souviens en 1998, c'est un truc personnel, que j'étais sur la butte aux Cailles. Vous voyez, c'est un quartier de Paris qui est un peu élevé. Et dans une rue de la butte aux Cailles, j'ai vu la comète Albop, c'est en 1998, si je me souviens bien. Et on la voyait très bien. Pourtant, il y a de la pollution quand même. La nuit était tombée, puis je regardais, je faisais comme ça pour attirer l'œil des gens qui passaient sans regarder, parce qu'on n'a pas l'habitude. de lever la tête comme ça.
En région parisienne, j'ai des collègues qui, des fois, s'installent à la sortie d'une gare de RER ou de train de banlieue avec leur télescope pour montrer la Lune et les planètes aux gens qui rentrent du boulot. Alors, il y en a qui sont crevés, qui sont pas en état, je dirais, de s'arrêter. Mais ceux qui s'arrêtent, bah oui, ils découvrent que, en fait, on peut voir des choses, même sans partir en vacances au loin. Voilà, qu'on est à Paris, bon, si on veut voir un ciel très pur, on n'a pas besoin de faire 500 km pour aller jusqu'à Meymac. Les astronomateurs, ils vont plutôt dans le Morvan. Mais voilà, on n'a pas besoin de faire ces 200 ou 300 km. On peut voir au moins les planètes et la Lune depuis les grandes villes. Et ça, les gens ne le savent pas ou ne le savent plus, je ne sais pas.
Même une belle paire de jumelles vous permet de voir les cratères de la Lune même en plein jour. Parce que de temps en temps, on voit la Lune en plein jour. Même comme ça, on voit déjà quelque chose. On est stupéfait par ce qu'on voit avec une paire de jumelles ordinaire.
Alors, quand on est enfant du côté de Meymac ou du plateau de Mille Vaches, on n'a pas besoin de se déplacer. Il suffit d'aller dans le jardin. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le label Réserve internationale de ciel étoilé, donc il y a des efforts qui sont faits pour encore plus pur ce ciel qu'il était déjà pas mal. Hein, la pollution lumineuse, elle est quand même assez minime. Dans le coin. Est-ce que ces initiatives un peu de labellisation des ciels, c'est des choses qui sont importantes du point de vue des astronomes?
Je crois que c'est une perte de perdre le contact avec le ciel que tous nos ancêtres ont vu depuis des milliers d'années. Et donc, protéger ça ou sanctuariser ça à certains endroits, je pense que c'est important, symboliquement et culturellement. Après évidemment tout le monde ne sera pas intéressé par ça, mais avec ces initiatives on donne la possibilité à des gens de s'y intéresser, ce qui ne serait d'autant moins le cas s'il n'y avait pas d'endroit avec un ciel noir garanti.
Moi je dirais qu'il faut faire les deux, hein. C'est pas parce qu'on a des parcs réservés qu'il faut traiter le reste du territoire comme une poubelle lumineuse, et c'est un petit peu le danger. Ça a été le cas d'ailleurs pour les parcs nationaux aux États-Unis, pourtant la pollution là-bas, je parle pas de la lumière, là, je parle de la pollution en général. Donc on préservait d'un côté, et puis alors le reste, quand on sort, allez hop, on s'est touché si on jette pas les gobelets et tout ça. Hein. Donc il faut faire les deux. Et je crois que d'ailleurs, il y a quand même pas mal de municipalités qui font attention à ces aspects-là, pas seulement dans les parcs régionaux. Et je crois que les deux sont importantes. Mais qu'on ait des lieux emblématiques comme cela, c'est évidemment fondamental.
Même en région parisienne, les municipalités commencent à éteindre la lumière des villes, d'abord de 1h à 5h parce que personne ne le remarque, et puis peu à peu ils étendent la plage d'extinction. Et puis quand les gens commencent à dire « Ah mais qu'est-ce qui se passe, vous éteignez les lumières ?» Bah oui, ça fait des années qu'on le fait de 1h à 5h, maintenant on le fait de minuit à 5h, et puis les gens se rendent compte qu'effectivement éclairer toute la nuit les rues plein pot, ça sert presque à rien, et qu'on peut faire des efforts, et que si on fait des efforts, il y a quelques inconvénients éventuellement, mais il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Les gens traînent moins dans les rues, il y a moins de tapage nocturne. Et
on économise.
Et du point de vue de la municipalité, cette fois, on économise. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'insécurité n'augmente pas parce qu'on a éteint les lumières. Les gens ne vont pas cambrioler des maisons la nuit parce qu'il n'y a pas d'éclairage urbain. Les gens cambriolent les maisons le jour quand les occupants ne sont pas chez eux. La nuit, ils vont cambrioler un entrepôt ou un magasin. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la lumière ou pas dans votre rue qu'il y aura plus ou moins de cambriolage.
Tu as l'air vraiment au courant, dis donc.
Ça a été une difficulté il y a une vingtaine d'années quand, à l'initiative des astronomes, il y a eu une sensibilisation des élus pour éteindre les lumières la nuit. Le premier réflexe des élus, c'était la sécurité. L'expérience montre que si les rues sont pas éclairées, les voitures roulent plus lentement. Donc les accidents, il y en a peut-être, et peut-être un petit peu plus, mais ils sont beaucoup moins graves. L'insécurité n'augmente pas parce qu'on a baissé l'éclairage. Donc en fait, le bilan global, il est meilleur. Évidemment, s'il y a un petit trou dans la chaussée, que vous mettez le pied dedans, vous allez vous tordre la cheville parce que vous ne l'avez pas vu. Mais... c'est moins grave que si vous faites renverser par une voiture qui va à plein pot parce que la rue est éclairée. Donc c'est tout ce travail-là qui a été fait pendant très longtemps, d'abord par les astronomes, puis par les parcs naturels, qui permet que la France soit un des pays les plus en pointe sur l'extinction de l'éclairage public. On peut dire que ça peut être une fierté tout à fait légitime qu'on peut avoir aujourd'hui ici.
Ça a commencé dans les années 76, je me souviens, 70. lorsqu'il y avait à l'époque le télescope le plus emblématique de la planète, c'était le Mont Palomar. Tout le monde parlait du Mont Palomar, dont le diamètre du miroir était 5 mètres. On était très très en arrière en Europe, très en retard. Et aussi la pollution lumineuse commençait à être problématique, parce que c'est à peu près à 200 km de l'observatoire, il y a San Diego et il y a Los Angeles. Et les astronomes se sont mobilisés pour aller voir
les municipalités
de San Diego pour leur expliquer que le rayonnement des États-Unis, c'était l'astronomie, et leur expliquer que Hubble avait découvert l'expansion de l'univers, ça s'était fait à Palomar, etc., etc. Ils ont été extrêmement sensibles à l'argument, et ils ont été parmi les premiers à passer à un mode d'éclairage différent avec des lampes de sodium en jaune, vous savez. Et ça, évidemment, a aidé énormément le site en question. Et ça a commencé comme ça, 76.
C'est un long chemin.
Ouais, c'est long, mais ça marche.
Alors, pour vous retrouver au cours du week-end, alors une projection du documentaire dont on a passé un extrait, Voyage au cœur d'un trou noir, c'est à 14h30.
Voilà, et puis je répondrai à l'issue aux questions du public.
Oh, voilà. C'est au cinéma Le Soubise.
Voilà, au cinéma. Et puis de le reste de la journée, je vais le passer au centre sportif où je montrerai des simulations de ce qu'on verrait autour d'un trou noir, donc façon interstellaire pour les auditeurs et auditrices qui ont vu le film, adaptées pour des casques de réalité virtuelle. Donc voilà, vous y serez de façon très immersive. J'ai amené 6 casques, donc on peut recevoir du public en permanence pour leur montrer ce genre de choses, qui sera un complément, je dirais, au documentaire bien monté, où je m'exprime mieux, où je donne plus d'explications, évidemment.
Très bien. Et vous, Daniel Kunt, vous donnez une conférence. Alors, une conférence sur un sujet un peu original dont on n'a pas parlé là dans l'interview.
Oui, ça s'appelle, je ne sais plus comment, 20.
Le nom, ce que j'ai, c'est 20 hémoglobines et cosmos.
Voilà, oui, alors j'ai changé de titre parfois, mais c'est ça. Oui. Évidemment, il faut... D'abord, même les étoiles nous aident, puisqu'il y a des étoiles qui sont toutes seules, d'autres qui sont doubles. Alors, il faut faire attention, quand on est astronome, de ne pas boire trop, parce que toutes les étoiles deviendraient doubles, ce qui serait un petit peu gênant. Mais non, pour être un peu plus sérieux, disons qu'il y a effectivement un lien entre... Nous sommes quand même reliés au cosmos. C'est Hubert Reeves qui avait formulé la chose en disant que nous sommes les enfants de la poussière d'étoiles. Donc c'est ça que je vais reprendre un petit peu. Évidemment, ça s'applique au vin et ça s'applique au verre d'eau. D'ailleurs, quand on boit un verre d'eau, eh bien, on boit de l'hydrogène qui a à peu près 13 milliards d'années, mais on boit aussi de l'oxygène qui est beaucoup plus jeune. Donc c'est un mélange de toute cette histoire de l'univers que l'on retrouve dans un simple verre d'eau. Alors évidemment, avec le vin, c'est encore un petit peu plus proche et c'est encore un petit peu plus complexe. Et puis l'hémoglobine, c'est la même chose, parce que j'ai le titre dit hémoglobine, parce que le fer, c'est important. Et sans étoiles, il n'y aurait pas de fer.
Donc sans étoiles, il n'y aurait pas de vin non plus.
Ah non, voilà. Il n'y aurait pas de vin.
On doit beaucoup de choses aux étoiles, j'ai l'impression.
Ouais. Et cette conférence, elle aura lieu au cinéma, comme toutes les conférences. Hein, on a dit que la conférence de Jean-Loup Chrétien, plutôt, aurait lieu au Claudel Pays.
D'accord.
Mais elle aura lieu au cinéma.
Tu fais bien de corriger.
Au cinéma.
Cinéma.
Voilà, donc
cinéma,
rendez-vous
toutes
tous
les conférences,
cinéma.
A priori.
D'accord.
Où il y aura plus de
place. En fait, la raison pour laquelle je me suis intéressé à ça, vous voyez, et tout, c'est parce que j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Les mots du ciel.
Oui.
Et l'astronomie m'a conduit à faire ça. Je me posais des questions, m'apercevoir que dans notre vocabulaire quotidien, il y a des tas de mots qui sont empruntés à notre regard au ciel, comme, je sais pas, malotru, canicule, jovial. Pentacrine, justement, les pentacrines qu'on trouve dans les vignobles du Jura.
Voilà. Oui, les mots du ciel, donc votre ouvrage qui a beaucoup circulé, hein, qui est un des ouvrages de vulgarisation.
Qui est traduit en anglais maintenant.
Qui est traduit en anglais.
Sous le nom de Star Words.
Ah oui, les anglais sont forts en
titre. Un petit clin d'œil. Oui. Non, c'est pas le qu'on trouvait. C'est nous.
Bravo. Très bon jeu de mots. Eh bien écoutez, Daniel Kunt et Alain Riazuelo, merci. Et puis on vous souhaite un bon week-end et faites-nous
vous...
encore rêver d'étoiles et de trous noirs.
Voilà, merci beaucoup.
Merci, bon festival. Merci. Est-ce qu'on s'écoute quelque chose, Raphaël ?
Oui, bien sûr, on va s'écouter quelque chose. On va s'écouter, je vous dis pas, je vous le mets, puis on en parle après.
Bon, d'accord, ok.
to path with scattered seeds beneath the emerald stars. C'est ton chemin. But in the crowd there's only one beneath the emerald stars.
C'est ton chemin. Le long.
Et voilà, c'était Émilie Simon, graine d'étoile, parce qu'on parle, on parle d'étoiles aujourd'hui sur Radio Vassivière. On est en direct de Mémac pour la fête des 20 ans du parc naturel régional Mille Vaches en Limousin. Et on reçoit autour de la table des astrophysiciens, des astronautes, des présidents de parcs régionaux.
et tout type de gens
bientôt,
qui fréquentent les étoiles.
Voilà. Exactement. Et il y a une autre manière de les fréquenter, bah c'est de les photographier. Et on va bientôt recevoir Carole Reboul, qui est photographe, qui s'est spécialisée un peu dans les photos de nuit. Elle n'est pas encore tout à fait là, donc on va patienter un petit peu en musique. Donc on va rester dans le thème des étoiles, cette fois avec Philippe Catherine.
Toutes les étoiles, l'aurore boréale. Je te donne ce que je n'ai pas, mais comme tu crois que tout est à moi, toujours, même le point du jour, alors tu t'en fous, mon petit chou, les anges blonds, les nuits sans fond, je te donne toutes les saison. J'ai l'impression d'être un dieu au fond. les étoiles, l'aurore boréale. Je te donne ce que je n'ai pas, mais comme tu crois que tout est à moi, toujours, même le point du jour, alors tu t'en fous.
Sur Radio Vassivière, vous nous écoutez en direct de Mémac. On fête les 20 ans du PNR. Joyeux anniversaire, le PNR.
Joyeux anniversaire.
Autour de la table, il y a Raphaël, comme vous avez pu l'entendre lors de la dernière heure. Et puis, il y a Lionel qui nous a rejoint.
Salut. Salut,
en fait,
salut.
Ça fait un moment que tu étais là.
Ouais, mais...
Tu nous as donné des petits coups de main. Et là, tu vas rejoindre le tour de la table pour parler d'une exposition bah, merci, qui t'a bien plu, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah oui, en tant que bénévole, c'est important de fêter les 20 ans du PNR et puis les 40 ans de Radio Vassivière en étant au micro avec vous. Puis voilà, de poser des questions... d'habitants, voilà.
Alors, donc, on reçoit, voilà, on avait commencé à en parler un peu avant la musique, Carole Reboul, qui est photographe. Bonjour, Carole.
Bonjour, enchantée d'être là, je suis ravie.
Alors, Carole, vous êtes photographe, je crois, depuis 2013, c'est ça?
En fait, oui, j'ai pris le statut auteur photographe en 2013, mais j'ai toujours fait de la photo depuis toute petite, c'est ma passion.
Et aujourd'hui, c'est votre métier?
Oui, en fait, j'ai un double métier quand même. Je suis en même temps enseignante. J'ai eu une formation de physicienne. Donc, voilà, j'ai fait des études de physique.
Ah là, on pensait avoir juste une photographe. On a encore une physicienne. On n'a que des physiciens
non,
ce matin.
Humblement, humblement.
Non, mais c'est très bien. D'accord, donc physicienne. Et est-ce que là, vous faites un lien entre la physique et vos photos?
Eh bien, au final, oui, 10 ans après, ça se retrouve avec une certaine cohérence que j'ai pas vu venir, puisque j'ai commencé à faire la photo avec de la macro et des fleurs, et l'infiniment petit plutôt, qui m'attirait plus. Et puis, chemin faisant, de pierre en pierre, je suis arrivée sur le ciel. C'est devenu une évidence, alors qu'au début, ça l'était pas. Voilà.
Alors, c'est quand même deux techniques, j'imagine, très différentes, de photographier le tout petit et l'infiniment grand, et en plus de nuit.
Mais photographier l'infiniment petit, la macro, c'est une très bonne école parce que ça permet de jouer énormément avec la lumière sur un tout petit espace. On comprend absolument plein de choses en fait et on expérimente plein de choses très facilement sans aller très loin et c'est très créatif. Et après, en fait, j'ai eu envie d'exporter tout ça, toutes ces connaissances, tout ce que j'avais appris, de l'exporter à la photo de nuit qu'on a l'habitude de voir plus classique. Et moi, je suis une vraie fan des flares. Les flares, c'est cette espèce de rond de lumière qui sont peints dans le champ de netteté. Et je me suis dit que voilà, j'avais envie d'avoir... Parce que la nuit, en fait, même si tout est noir, il y a quand même de la lumière. Sinon, on n'y verra absolument rien. Donc, je travaille la nuit comme j'ai travaillé ma macro, en jouant avec la lumière, en expérimentant et en essayant de... Voilà, s'il y a la lumière, il peut y avoir des flares.
Un flair, c'est vrai que c'est étonnant. Du flair dans une photo de nuit, on imagine que ce serait plutôt l'ennemi qui va cacher ce qu'on veut montrer. Mais non, en fait, ça peut permettre de révéler des choses aussi.
Voilà, oui, ça peut permettre. Et puis d'apporter un petit côté poétique, artistique, qui voilà, c'est très subjectif en fait. Moi, j'aime ça, donc j'essaie de montrer ce qui me parle et ce qui me fait vibrer aussi. Ouais.
Oui, ça permet peut-être d'amener la présence du regard qui est pas évidente quand on photographie l'infiniment grand, l'espace. Peut-être la question du regard, elle est pas si simple par rapport à de la photo de portrait ou de.
Oui, et puis en fait, ce qui se passe la nuit, c'est que il y a le paysage, il y a le ciel, les étoiles qui sont très loin. Il y a quelque chose de plus qu'on oublie tout le temps dans la photo de nuit. C'est ce qu'il y a entre cette matière, c'est l'air. Et l'air, il est invisible, on le voit pas. Et pourtant, quand on se balade la nuit, il est omniprésent parce qu'il est chaud, il est froid, il est humide, il nous mouille, il nous glace. Et donc, c'est ça que je voulais montrer aussi. La présence matérialisée, cet air. Et les flares, en fait, c'est les gouttes d'eau qui sont dans l'air, c'est les flocons qui tombent. Donc, comme ça, je montre cette troisième dimension qui relie l'infiniment loin à nous qui sommes sur Terre.
Alors Lionel, je crois que tu as été voir donc, l'exposition, donc, on n'a pas dit, ouais. Il y a donc, une exposition pendant tout le week-end qui est donc au Clos del Pais.
Oui, en fait, juste aujourd'hui.
Juste aujourd'hui,
ouais, okay, juste donc, aujourd'hui, jusqu'à
donc,
ce soir.
Venez, vous avez encore l'après-midi pour la voir. Et donc Lionel, tu t'es promené un petit peu dans l'exposition.
Bah ouais, on s'est promené, puis j'ai discuté un peu avec toi. Et du coup, moi ce que j'ai pu observer, c'est déjà des très belles photos d'un très très beau format. Tu travailles toujours sur des grands formats. Enfin, tu proposes, en tout cas pour les expositions, des très beaux formats. C'est vraiment très beau.
Bon, merci, c'est gentil.
C'est impressionnant. On a l'impression d'y être. Et oui, sur quel si on peut parler de technique de photo, comment tu peux nous expliquer comment tu travailles avec
sur le terrain.
Ouais, sur le terrain, plus de vue et puis après en tirage.
Ouais, bah sur le terrain en fait, ben toujours un trépied, hein, parce que la photo de nuit c'est une pose longue, forcément il faut capter la lumière sinon tout est noir. Donc je suis à pleine ouverture. Moi j'ouvre à 2.8 parce que mon objectif ouvre à 2.8. Et après je fais une pose. Alors on peut pas dépasser les 20, 25, 30 secondes. Parce qu'après, on capte le mouvement apparent le mouvement de la Terre. Mmh. Et donc, les étoiles vont commencer à faire des petits traits. Donc, au-delà, avec j'ai un 14 mm en grand angle. Donc, je peux aller jusqu'à 25-30 secondes. Et les étoiles restent à peu près ponctuelles. Okay. Donc, voilà. Donc, c'est un compromis, en fait. Hein, la photo de nuit, c'est pas forcément parfait parce que on monte les ISO au plus suivant son matériel, on ouvre au plus suivant son matériel et on fait la pose la plus longue qu'on peut, mais on est limité. Et malgré tout ça, ça reste assez sombre, mais voilà, on joue sur ces trois facteurs-là.
Et du coup, en fait, pour faire le parallèle à ce que tu disais tout à l'heure sur les flares, montrer l'invisible quelque part, donner de la magie aussi à la perception de la nuit qui est. Voilà, tout le monde dort la nuit, en fait. C'est encore une période d'une révolution terrestre qui est peu connue par les terriens, en fait. Nous, les humains, en tout cas. Mais du coup, tu rajoutes cette lenteur, cette longueur dans la prise de vue qui rajoute une autre dimension encore. C'est la notion du temps, en fait.
C'est cohérent,
sur
en fait.
Ouais.
C'est ça qui est bien, c'est que, justement, on est obligé de prendre son temps et sortir la nuit. Ça serait pas... ça serait un non-sens de faire des photos en courant de partout la nuit et en allant zap, 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 d'endroit en endroit. Donc, je vais à un endroit, j'y passe la nuit et je tourne autour. Et petit à petit, en fait, comme mon œil s'habitue aussi à l'obscurité, je commence à capter mon environnement, même émotionnellement aussi. En fait, il se passe des choses. Je commence toujours par faire des photos classiques. Et puis, petit à petit, je me connecte un peu à mon environnement. Et qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'un peu original sur ce lieu-là? Comment je vais pouvoir le faire parler? Qu'est-ce que je vais montrer? Donc, parfois, j'arrive avec une idée déjà en tête, parfois pas, et puis c'est le lieu qui me le dicte. Donc, voilà, il y a ce temps qu'il faut prendre, il faut rester sur place, et je vais rester un moment, parfois. C'est bien, je vais mettre l'intervalomètre et faire plein de photos, et puis pendant ce temps, je vais m'allonger, je vais regarder les étoiles et réfléchir à la suite, qu'est-ce que je vais faire après. Donc c'est...
Et en fait, on le ressent bien, tu le partages vraiment avec nous quand on voit ton exposition. On a vraiment cette sensation, enfin, cette captation d'un moment, un temps donné, la nuit. Enfin, c'est vraiment. Moi, je découvre vraiment ton travail avec grand bonheur.
Ouais. Merci beaucoup.
C'est très beau.
Et ben voilà, on vous invite à venir vous plonger dans les grands formats. de Carole Reboul, donc au Clos del Pays à Meymac encore toute la journée. C'est une exposition qui tourne un peu ou...
Oui, ça fait un moment qu'elle est sortie, hein, ça fait 3 ou 4 ans, et j'ai tourné un peu partout en France, même dans d'autres... Enfin, Belgique ou autre, donc voilà.
Et des lieux comme ici, donc, qui se constituent un peu autour de la réserve internationale de ciel étoilé, c'est des lieux importants quand on est photographe de nuit ?
Ah, ça c'est clair, oui. Alors, personnellement, j'habite aussi dans les Cévennes, donc c'est une réserve de ciel étoilé, donc ça me parle. Et ça a été aussi un peu le déclencheur de mon travail justement sur la nuit. J'ai commencé à peu près au moment où les Cévennes sont devenues réserves de ciel étoilé. Et j'ai aussi donc travaillé avec le parc pour ça. Mais c'est vrai que c'est un pur bonheur d'avoir accès à des cieux complètement noirs. Mais hier soir, je suis allée faire des photos, justement, ici.
Du côté de Millevaches, du coup ?
Oui, 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 voilà. Il y avait un petit lac juste à côté. J'ai passé 2 heures à faire des photos. C'était extraordinaire.
Du coup, vous avez loupé toute la fête, alors ?
Quand on ne se refait pas quand on est photographe, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller un peu sillonner autour et voir ce qu'il y avait et profiter de ce beau ciel. Voilà.
Est-ce qu'il y a des ciels qui sont différents en fonction de là où on est, en dehors du fait qu'on voit plus ou moins bien, vous parliez de la qualité de l'air, et par exemple, est-ce que, parce qu'on se dit, bon, après tout, on est tous sous les mêmes étoiles, c'est un peu l'expression. Est-ce que si on fait une photo dans le parc des Cévennes ou sur le plateau de Millevaches, est-ce qu'elle va être différente ?
Alors, le ciel est le même. Si on l'a fait à la même saison, le ciel sera le même. C'est ça qui est extraordinaire aussi, en même temps, parce que justement, partout où on est, on a accès à ce même ciel, donc on a pas besoin de se déplacer, de courir à droite à gauche. Normalement, on devrait juste pouvoir sortir sur le pas de sa porte et regarder le ciel et en profiter. Donc c'est pour ça qu'il faut éteindre partout pour que justement les gens n'aient pas à faire des centaines de kilomètres pour voir le ciel. Après, on n'a pas le même ciel suivant les saisons. Et l'hiver, moi j'adore le ciel d'hiver avec Orion. J'ai des repères comme ça qui sont presque des amis dans la nuit que je regarde et qui... Voilà, donc j'ai une petite préférence pour le ciel d'hiver et sa clarté, et puis le froid qui va avec, qui fait qu'on est encore plus dans l'instant présent que quand on est en plein été.
Oui, on n'est pas distrait par la langueur de l'été, on a envie de...
Voilà, puis on est bien en communion avec les éléments, parce que comme il fait froid, comme c'est plus un milieu hostile, il faut quand même faire un peu attention quand on part en randonnée, donc on est vraiment hyper connecté à tout ce qui nous entoure.
Vous êtes une sorte de photographe animalière dont les animaux, ce seraient les étoiles, quoi. C'est ça. De l'affût d'étoiles.
En même temps, voilà, je photographie aussi certains animaux quand j'en rencontre. Il y en a dans le livre, justement, hein, quelques-uns. Donc, et c'est aussi les entendre, même si des fois on ne les voit pas, on les entend. Entendre la chouette hulotte, c'est vraiment extraordinaire. Entendre le cerf bramer, c'est des moments magiques et c'est très, très, très fort. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'emmener nos enfants aussi. Créer du lien pour qu'après, quand ils soient grands, ils aient ces souvenirs importants pour qu'ils continuent à protéger le ciel étoilé. Parce que ça va avec la nuit, avec l'obscurité. Alors, c'est vrai que tu disais tout à l'heure que c'est une porte qu'on n'ouvre pas forcément, on ne sort pas forcément beaucoup la nuit. En même temps, heureusement, si tout le monde se mettait à sortir et éclairer. Mais il faut vivre cette expérience-là à un moment donné, il faut connaître ça de temps en temps. Mais il faut respecter l'environnement, il faut être attentif, être silencieux, être dans le noir...
Oui, c'est un temps de pause quasiment obligatoire, en fait, la nuit. Enfin,
oui.
Pour se reposer, se ressourcer, et puis aussi pour l'environnement. Voilà.
Ben voilà, ben du coup, ça donne envie de voir ça, de voir ces photos. On peut les voir dans l'exposition, on peut les voir peut-être, il y a des ouvrages
Oui, alors, donc il y a un livre qui est paru avec les éditions La Salamandre, hein, éditions suisses, pardon, qui font des revues aussi pédagogiques. Et donc le livre s'appelle « Il était une fois la nuit », on le trouve dans toutes les librairies ou sur mon site internet.
Voilà, donc on rappelle Carole Reboul, photographe, et l'exposition, on peut la voir encore aujourd'hui jusqu'à ce soir.
Après, il y a les bâches qui restent, qui sont en extérieur.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais quand on se balade dans mes Macs, on a des très belles bâches, des belles impressions qui couvrent un peu les murs.
Voilà, oui. Donc,
très grand format.
Il y a une dizaine de bâches, même un peu plus, une quinzaine, ouais, qui permettent aussi demain encore de voir les photos.
Et mais Carole, merci.
Merci à vous.
Et on vous souhaite un bon week-end.
Merci beaucoup.
Bon week-end aussi.
Alors voilà, bah on va bientôt finir ce premier direct.
Ouais,
on va peut-être finir en musique.
Oui,
c'est
je
pas
pense,
mal ça.
Je
et puis on dira au revoir après.
Ouais.
Allez, ben moi j'avais envie de un truc sur. Voilà, on va quitter un peu les étoiles, mais on va rester dans la nuit. Et on était un peu dans les années 80 tout à l'heure avec Jean-Loup Chrétien, donc on va y retourner un petit peu.
Raphaël, est-ce que tu as un peu moins peur de la nuit maintenant que tu as parlé à tous ces experts ?
Bah, je suis pas sûr parce que quand même les trous noirs, ça a quand même pas l'air très très rassurant.
C'est vrai que ça fait un peu peur. Bah, on pourra recommencer à parler à d'autres experts, je pense, cet après-midi.
Oui, cet après-midi. Ouais, on va creuser un peu. Je crois qu'on va parler fond diffus cosmologique,
ça
naissance de l'univers, Big Bang.
Je suis terrifié désormais.
Voilà. Donc on se retrouve à partir de 14h pour un deuxième direct. On va parler de plein de choses, aussi de biodiversité. On aura la tête un peu dans les étoiles, mais aussi un peu du côté de la planète bleue et verte. Et puis en attendant, on va vous laisser avec la playlist de Radio Massivière et puis les émissions qui vont suivre. On reprend la main tout à l'heure, donc rendez-vous à 14h. On sera de nouveau en direct de Meymac pour les 20 ans du parc naturel régional.
Et oui.
Ah oui, peut-être qu'on peut annoncer quand même, vu qu'on a l'antenne, on va dire ce soir, parce que là on parle des 20 ans du parc naturel régional et on est là pour ça, mais ce soir il y a une autre structure qu'on connaît bien qui fête aussi un anniversaire.
C'est... Mais qui ça peut être?
Qui ça peut être? Je crois que c'est une radio qui est née du côté du lac de Vassivière, c'est ça. Donc Radio Vassivière fête ses 40 ans, ouais, 40 ans. Vraiment, c'est quasiment au jour près, je crois. C'était
jeudi.
Jeudi, c'est ça. Et pour fêter ça, en beauté, en musique, évidemment. Pour une radio, c'était la moindre des choses. On se retrouve. On peut soit écouter le direct sur Radio Vassivière, mais on peut aussi venir. À
bien
Broussa.
Sûr. Ah bah surtout venez.
Surtout venez.
Déjà, on est là et on est beau.
Déjà.
Parce qu'on n'est pas juste intelligent et intéressant.
On est aussi beau, c'est ça.
Et ça, ce sera l'occasion de le découvrir.
Vous pourrez le voir. On a des physiques de radio tout à fait correctes.
Et oui.
Et donc, on vous invite ce soir. Donc, c'est à partir de quoi? De 20h
À 21h, le 21 concert. Heures, voilà. Nous, on tiendra une buvette à partir de 16h. Donc, pour voir nos têtes, c'est quand même à partir de 16h.
Oui, venez à partir de 16h. En plus, il va faire beau là, cet après-midi.
Ouais,
ça va
là,
se lever.
Là, on le sent.
Là, il fait encore un peu froid là maintenant, mais je pense que ça va s'améliorer.
De 16h à 18h, on est en direct, donc à moitié pour les 10h de paddle. Et aussi, on va vous parler un peu, on va vous teaser le concert du soir.
Voilà.
Et puis
il y aura un direct, donc ce sera pas nous, ça sera des collègues qui seront au micro, mais voilà.
Vous retrouverez Nini et Lilou pour les
Nini
nommer.
Et Lilou, voilà. Donc grosse journée de direct sur Radio Vassivière. Alors je redis pour ceux qui arrivent sur l'antenne et qui sont étonnés de pas entendre d'accordéon, on a Good Morning Ventadour et Quant à l'accordéon nous ont prêté gentiment leur créneau du samedi matin pour nous permettre de faire ce direct à Meymac pour
les
20 ans du PNR. On les remercie. Ils reviennent la semaine prochaine avec leur émission. Voilà.
On leur souhaitera un super anniversaire à eux aussi.
Oui. Ils sont plus vieux que Radio Vassivière. Ils ont an de plus. Donc je pense que
dans 9 ans, on leur fera un super anniversaire des 50 ans.
Oui, on prépare ça. Et Justine, on se retrouve tout à l'heure.
Et oui.
On va se reposer.
Et cher auditeur, si tu m'aimes, t'en vas pas.
Ne t'en vas pas.